France Inter.
Aujourd'hui, Océan, l'état d'urgence, raconté par...
Claire Nouvian, fondatrice de l'ONG Bloom.
Et Marine Calmet, présidente de l'ONG Wild Legal.
France Inter. Journée spéciale. L'océan peut-il nous sauver ?
La mer a toujours mis au défi l'esprit et l'imagination des hommes. Encore aujourd'hui, elle demeure la dernière grande frontière de la Terre. C'est un royaume si vaste et si difficile d'accès que malgré tous nos efforts, nous n'avons pu en explorer qu'une infime partie. Il y a encore une décennie, on avait coutume de dire qu'il régnait dans les abysses un calme absolu, qu'aucun mouvement d'eau, si ce n'est parfois un courant imperceptible, ne venait perturber leurs recoins les plus obscurs et qu'elles étaient non seulement isolées de la surface, mais aussi des différents mondes qui cohabitent dans les eaux peu profondes. Cette vision des abysses disparaît rapidement pour laisser place à un univers en mouvement et en évolution constante. On sait désormais que les plaines abyssales ne sont pas isolées des continents, ni des mers peu profondes qui les entourent et qu'elles reçoivent des dépôts de sédiments en provenance des rives continentales. Le fond des océans est parsemé de traces, de pistes, de petits cônes construits par des formes de vie inconnues ou de trous habités par de minuscules organismes fouisseurs. Même s'il y a quelque chose de décourageant dans la manière dont l'homme a géré les ressources naturelles tout au long de son histoire, on se complaît depuis longtemps dans l'idée que la mer est inviolable, qu'elle est trop grande, trop puissante pour que l'homme puisse la transformer et la détruire. Malheureusement, cette croyance s'est révélée naïve. Jusqu'à la fin des années 50, la mer a été considérée comme une poubelle naturelle pour tous les déchets toxiques et les déchets de faible activité de l'ère atomique. Commencer par éliminer les déchets avant de s'interroger sur leurs effets est une incitation au désastre, car une fois les éléments radioactifs déposés dans la mer, leurs effets sont irrémédiables. Les erreurs commises aujourd'hui sont commises pour toujours. Il est étrange de penser que la vie a surgi de la mer et que la mer est désormais menacée par l'une des formes de cette vie. Mais la mer, même si elle est entraînée dans une évolution désastreuse, continuera à exister. La menace porte plutôt sur la vie elle-même. Rachel Carson, La mer autour de nous, publié en 1951 et traduit en France aux éditions Wild Project. Claire Nouvian et Marine Calmet, bonjour.
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 La journée spéciale Océan se poursuit sur France Inter à 6 jours donc de la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice. Avant de discuter ensemble des enjeux de ce sommet, dans quel état d'esprit êtes-vous avant le démarrage de cette conférence, Marine Calmet ?
Personnellement, j'ai pleine confiance dans notre capacité en tant qu'association et en tant que collectif à porter justement des idées fortes et à faire en sorte qu'on ne cède pas trop la place justement au discours convenu, mais qu'au contraire on utilise cette tribune médiatique à bon escient.
Donc ok pour les idées fortes et pour l'issue de la conférence ?
Bah, ça tiendra à nous tous, en tant que peuple, en tant que civilisation. Et c'est justement dans des moments historiques comme ceux-là où des peuples viennent du monde entier qu'on peut réussir à forger des nouvelles alliances.
Claire Nouvian, votre état d'esprit, vous, avant Nice ?
Consterné.
Déjà ?
Ah oui, consterné. Ah, mais en plus, après la matinale sur France Inter aujourd'hui, et en fait tous les éléments de langage du gouvernement qui ont été repris,
Donc vous êtes consterné avant même que ça ait commencé ?
Ah oui, vraiment. Vraiment. Et alors, pas du tout abattu, hein. Attention, vous voyez, je fais bien la différence. En revanche, consterné, parce que, en fait, quand on a une conférence internationale qui n'a lieu sur l'océan que tous les 3 ans, ce n'est jamais que la 3e fois que ça a lieu. Et ça a lieu tous les 3 ans, donc. Et qu'on a la France qui s'est battue auprès de l'ONU pour obtenir l'organisation de cette conférence, alors qu'elle ne nous revenait pas, puisque la dernière conférence a eu lieu en Europe, à Lisbonne. Donc, normalement, ça aurait dû être sur un autre continent. On s'est battu pour en faire une vitrine. De quelque chose. Eh bien, on attendait une vitrine d'autre chose que des annonces qui allaient être assez creuses. Et quand on se bat et qu'on obtient l'organisation et qu'ensuite on a le poids de la France en termes de services diplomatiques, services publics, fonctionnaires absolument formidables et qu'on n'en fait rien et qu'on va se mettre dans une autoroute de coquilles vides, d'éléments de langage creux pour faire une opération de com' comme sait faire en effet la présidence de la République, je vous le dis, je suis consternée et il nous reste encore 6 jours, donc avec ma collègue Marine et bien d'autres, on va essayer vraiment de réveiller nos concitoyens, parce que je le dis, c'est un appel formel aux Françaises et aux Français qui nous écoutent, nous devons sauver ce sommet, parce que ce sommet a des enjeux qui sont littéralement vitaux pour l'humanité. Faut-il rappeler que l'océan est le principal régulateur du climat au niveau mondial, que c'est l'océan qui permet en fait de réguler la température et la météo, que quand on réchauffe l'eau et qu'on a des canicules marines, ça veut dire qu'on réchauffe l'air et que vous connaissez le principe de la goutte froide, que si on réchauffe l'air de 1 degré par chaque degré supplémentaire de réchauffement d'une masse d'air, on se retrouve avec 7% d'humidité en plus, on se retrouve avec des phénomènes de tsunami qui nous viennent du ciel, le niveau de l'eau monte partout autour des côtes, il y a des territoires entiers qui sont déjà rasés. Il y a des îles qui ont déjà perdu plus de la moitié de leur surface.
Oui, mais attendez, Claire Nouvian,
je vous le dis, c'est pour ça que je sais. Il y a des gens qui nous écoutent et qui sont.
Non, mais laissez quand même. Le sommet n'a pas commencé encore. Laissez quand même les pays s'exprimer. Il y a quand même un enjeu majeur, c'est d'essayer d'avoir un accord de Nice à l'issue donc, de ce sommet, comme il y a eu d'ailleurs un accord de Paris pour le climat il y a 10 ans maintenant. Ça peut être intéressant quand même de laisser aussi les États parler et discuter et négocier entre eux, non ?
Oui, j'entends bien. Nous, on est au contact des dossiers. Ça fait des années qu'au quotidien, on est au contact des dossiers. Donc, malheureusement, il n'y aura pas de pensée magique. Il y aura soit un retournement, une espèce de volte-face d'Emmanuel Macron, qu'il est capable de faire, puisqu'au dernier, justement, à la dernière conférence des Nations Unies sur l'océan, par la mobilisation citoyenne hors norme qu'on a eue, par mon Instagram d'ailleurs, on a fait avec tous ceux qui sont mobilisés contre l'exploitation des minerais en grande profondeur et en haute mer, on a obtenu littéralement dans la nuit un retournement de position du président de la République.
Bon ben voilà, donc.
Non mais vous voulez dire donc, mais attention, parce qu'un sommet, attention, on est une nation sérieuse, si on avait fait un travail sérieux, on aurait déjà préparé un immense succès de ce sommet.
C'est un sommet qui n'a pas été préparé pour vous ?
Mais pas du tout. On a préparé les éléments de com.
Qu'est-ce qui vous permet de le dire ?
Rappelez-vous ce qu'avait fait Laurent Fabius, en fait. Il a travaillé d'arrache-pied.
Pour l'accord de Paris.
Il y a exactement 10 ans. Et ils sont arrivés à cet accord incroyable de l'accord de Paris. On ne rappelle pas, on savait garder le réchauffement climatique sous la barre des 1,5 degrés et au maximum vraiment 2 degrés, ce qui est d'ailleurs, ces deux objectifs sont aujourd'hui morts et enterrés. Mais on avait vraiment fait le travail au niveau des diplomaties et on avait quand même obtenu la signature de 196 pays. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans l'accord de Nice ? Mais rien ! On va éventuellement courir après quelques ratifications de traités qui sont globalement en plus des coquilles vides, vous comprenez ? Ou alors on va s'attribuer le succès de négociations qui ont déjà leur propre agenda au niveau international, comme le traité sur le plastique ou le traité haute mer, vous voyez ? Donc vraiment, est-ce qu'on peut écraser tous les programmes de l'après-midi pour qu'on fasse
Non, on a déjà une heure pour en discuter, donc, et toute la journée d'ailleurs, parce que c'est l'objet de cette journée spéciale sur Inter. Marine Calmet, vous êtes toujours aussi optimiste après avoir entendu Claire Nouvian ou pas ?
Non mais moi j'adhère totalement à ce que dit Claire, c'est-à-dire que pour le moment le texte en l'état de la déclaration de Nice, donc un texte qui est à la fois symbolique mais qui doit être porteur d'une ambition politique forte, c'est vraiment une longue liste de banalités et donc on ne peut absolument pas s'en tenir à ça, le moment il est charnière et donc on a absolument besoin grâce à la société civile et celle de tous les continents, pas que en France, de s'allier pour justement porter un message fort et faire en sorte qu'on aille beaucoup plus loin que le texte en l'état actuel, qui est vraiment vide.
Olivier Poirot d'Arvor, donc ambassadeur pour les océans, effectivement, était ce matin sur l'antenne de France Inter, au micro de Léa Salamé et Nicolas Demorand. On va le réécouter, puisqu'au cœur des discussions du sommet, il y aura en particulier le traité sur la haute mer. Voilà ce qu'il en disait.
On se donne jusqu'au 15 décembre 2025, et avant Noël, ce sera le cadeau de Noël que nous déposerons au pied de l'océan. C'est enfin un traité qui va permettre que les activités illégales de pêche soient interdites, que les aires marines protégées soient créées en haute mer, que les ressources génétiques soient partagées équitablement. L'océan n'est pas inéquitable aujourd'hui, il appartient aux 15 puissances qui ont des moyens d'exploration.
Donc c'est un traité important.
C'est un traité qui ne va pas permettre du tout de faire ce qui a été dit ce matin à la matinale.
Mais parce qu'en fait,
regardez, la première cause historique de destruction de l'océan, c'est la pêche. Est-ce que le traité parle de la pêche ? Vous savez combien de fois le mot pêche est prononcé et écrit dans le traité ? Une fois ! La blague, c'est une blague. Donc non, il existe des outils pour en fait contraindre les flottes de pêche. Aujourd'hui, il y a une gouvernance internationale et cette gouvernance, elle est écrasée par les lobbies industriels. Parce que les États le veulent bien. Donc en fait, il existe des outils, on pourrait s'en saisir, pas pour dire que le traité est totalement inutile, le traité haute mer, il peut avoir, voilà, il rappelle, après 20 ans de discussions internationales, 5 ans de négociations, il nous rappelle que ça va pas. Oui, on le sait. Mais les processus onusiens sont très très lents, il nous en faut très bien, on a absolument besoin de l'ONU, il n'empêche que si on avait de la volonté politique de restreindre la première cause de destruction de l'océan, c'est-à-dire les flottes industrielles
qui écrasent
non seulement l'océan, mais qui écrase aussi les pêcheurs côtiers et les pêcheurs artisans, on le ferait déjà dans le cadre existant. Donc ce qu'il manque toujours à tout ça, c'est de la volonté politique. Ce qui nous manque, nous, pour notre sécurité en tant que citoyens, il nous manque des politiques qui nous protègent. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec le niveau d'urgence qui est celui de l'effondrement de toute la biodiversité dans l'océan et de l'effondrement du climat, ne pas agir de façon résolue avec des actes puissants, diplomatiques, utiliser cette conférence pour en faire quelque chose qui va marquer l'histoire, qui va permettre des mesures concrètes pour nous protéger, c'est littéralement criminel. Je le dis à ce micro, c'est criminel de ne pas agir parce qu'on est en 2025 et que dans 10 ans, ce sera trop tard. On sera trop tard pour limiter le niveau de désastre sur lequel on est sur un toboggan. Alors je sais que c'est compliqué parce qu'en même temps, on est assailli de mauvaises nouvelles et que c'est difficile de penser même le moyen terme. Mais il va bien falloir le penser, ce moyen terme. Sinon, on se met en danger. Il y a plus de 900 millions de personnes qui vont être déplacées du littoral mondial en raison de l'élévation du niveau de la mer. Là, dans quelques décennies, c'est tout de suite les conflits armés, la destruction de notre stabilité, de notre sécurité.
Marine Calmet, toujours au sujet de ce traité sur la haute mer, adopté en 2023. Il vise à mettre donc à l'abri les écosystèmes marins dans les eaux internationales. 28 pays de l'Union européenne l'ont ratifié à ce jour sur les 60 nécessaires pour entrer en vigueur. Est-ce qu'on peut justement, selon vous, avoir d'autres signatures là, d'ici Noël, hein, puisqu'Olivier pourrait avoir parlé du 25 décembre?
Je ne sais pas si c'est atteignable en l'état, puisqu'il y a des annonces d'autres pays qui vont clairement à l'encontre, notamment les États-Unis, qui sortent un peu du jeu international et qui font cavalier seul dans ce Far West qui est l'océan aujourd'hui. Et pour moi, toute la question rejoint justement quelles sont les mesures fortes dont on a vraiment besoin. Et malheureusement, en fait, ce traité-là, il reconduit un certain modèle juridique qui, à mes yeux, et c'est tout l'objet de notre travail sur les droits de l'océan, n'est pas le bon. Parce qu'on persiste dans l'idée que l'océan n'est qu'un ensemble de gisements de ressources exploitables qui nous est imposé à nous en tant qu'humains de gérer convenablement en bon père de famille. Or, c'est absolument pas le regard qu'on devrait porter sur l'océan parce qu'en fait, justement, ce regard-là conduit à sa surexploitation et à sa valorisation marchande uniquement.
Mais alors,
et pas
quel sera le rôle des ONG alors, Bloom comme votre ONG, Marine Calmet, puisque vous partez à Nice jeudi, Claire Nouvion dimanche, si déjà, avant même que ça ait commencé, c'est pour vous une coquille vide, à quoi ça sert que vous y alliez alors?
Parce que nous avons fait depuis plusieurs mois maintenant des propositions d'amendements au texte que nous portons. Nous avons une pétition qui a été signée à plus de 50 000 signatures qui soutient l'introduction des droits de l'océan comme un levier concret pour lutter contre sa destruction et son effondrement biologique. Et cette proposition pour la reconnaissance des droits de l'océan, aujourd'hui, elle est portée par une coalition d'acteurs, mais aussi elle est mise en pratique par des États comme l'Équateur, comme le Panama. Et donc le but pour nous,
c'est que ce soit intégré au traité.
C'est que ce soit écrit noir sur blanc dans le traité, non seulement pour encourager d'autres États à passer à l'action, mais aussi pour valoriser ce qui se fait et ce qui change radicalement
donc
la donne.
Donc ça, c'est ce que vous défendez, c'est ce qui fait l'objet aussi d'ailleurs de ce petit livre, hein, de ce petit texte, donc Justice pour l'étoile de mer vers la reconnaissance des droits de l'océan chez Actes Sud. Et vous, Claire Nouvion, qu'est-ce que vous allez faire à Nice alors?
Ah mon Dieu, d'abord raconter ce qui s'y passe, raconter surtout ce qui ne s'y passe pas, mettre vraiment la pression à Emmanuel Macron, parce que je pense qu'à la fin, il va falloir qu'il lâche deux secondes les lobbies de la pêche industrielle, puisqu'en fait, ce sont eux qui empêchent toute forme d'ambition. Donc on parle de quelques centaines de navires, enfin, il y a un énorme problème d'enjeu. Et puis on va faire comme on fait nous, les ONG, hein. On est parqués.
Oui,
on est parqués. Donc on est gentiment parqués comme des petits schtroumpfs bleus qui font joli. On va faire deux, trois manifs avec trois baleines en plastique, et pas en plastique parce qu'on aura fait notre job, et elles seront en papier ou je sais pas quoi. et puis on va faire décorum, voilà. Et puis j'espère qu'on sera une ressource pour les journalistes, je le dis, mais appelez-moi, enfin tous les journalistes de France, appelez-nous parce qu'on va mettre en place en fait un groupe WhatsApp pour un peu vous informer, vous donner un peu d'esprit critique, parce que franchement, merci Mathieu Vidard de nous donner un peu un micro ouvert pour avoir un tout petit peu de lecture critique des enjeux, parce que je suis un peu désolée par ce que j'entends sur les chaînes et à la télévision.
Bon, eh ben le ton est donné. En tout cas, on vous retrouve dans un instant. Il y aura certainement des réactions pour vous et des questions autour de ces enjeux autour des océans et qui fait l'objet donc de ce sommet à Nice à partir de la semaine prochaine.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Le fait est que les gens s'attendent, quand on parle de l'halieutique, s'attendent quand c'est que tout va s'écraser. Et quand on leur dit que c'est déjà fait, ils ne le croient pas. Mais en fait, regardez le thon rouge ou la morue, ce sont des stocks qui sont à 2, 3, 4% de ce qu'ils étaient il y a une centaine d'années. Donc là, le collapse a déjà eu lieu. Les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils n'utilisent que leur propre expérience comme source d'information. Or, elles sont trop courtes par rapport à un phénomène historique. Elles ne suffisent pas pour comprendre ces changements.
La voix d'un des plus grands spécialistes au monde des ressources marines, Daniel Polis, était à ce micro en février dernier. Claire Nouvian de l'association Bloom Marine Calmet de Wild Legal, vous êtes nos invités aujourd'hui pour parler des océans dans le cadre de cette journée spéciale sur France Inter. Claire Nouvian, Daniel Polis, vous étiez avec lui d'ailleurs cette semaine à Paris.
Oui.
Il sera présent à Nice ou pas ?
Non, il n'est pas invité. Ce serait vraiment avoir une voix critique, avoir pourtant le plus grand chercheur mondial qui a décrit l'effondrement des populations de poissons au niveau mondial, ce serait trop risqué pour le sommet du greenwashing.
Marine Calmet, l'effondrement des océans, on est vraiment déjà dedans en fait, hein. C'est ce que nous dit Daniel Polis dans l'extrait de l'émission.
Oui, tout à fait, et c'est ce qu'on rappelle aussi dans le livre, parce que l'idée c'était de faire un regard croisé entre la science et le droit. On a un droit qui est totalement en décalage avec ce que nous dit la science. On protège en silo certaines espèces parce qu'elles nous intéressent pour des buts de recherche, donc dans un silo anthropocentré, nous humains nous intéressons à certaines espèces, sauf que leur existence dépend de la bonne santé du milieu lui-même, donc toutes ces autres espèces qui ne sont pas protégées, totalement invisibles, et donc l'une s'effondre entraînant toutes les autres. Ça, c'est ce que vient de dire Polis. Et puis en plus, on a une protection par territoire qui est totalement lacunaire. C'est ce que dénonce Bloom constamment sur les aires protégées, où en fait, par compromis, on aménage en fait notre protection juridique pour tenir compte essentiellement d'intérêts marchands et économiques au détriment des intérêts de la nature elle-même et de nous, in fine, parce que ce sont nos droits humains qui sont directement menacés désormais.
On va revenir sur les aires marines dans un instant. Docteur Nouvian, s'il fallait faire justement un diagnostic de l'état de santé des océans aujourd'hui sur la planète, vous diriez quoi d'ailleurs ?
Eh bien, je dirais en effet, comme Daniel Polis, rappeler que l'effondrement a déjà eu lieu. Hein, on a déjà réduit les biomasses d'animaux vivants, donc les abondances des populations dans l'océan de façon absolument vertigineuse. Je vous donne un exemple, parce que sinon je vais vous matraquer de chiffres, mais je vais vous donner un exemple. En mer du Nord, en environ un siècle, on a fait disparaître les grands poissons de 99,2%. En Méditerranée, les requins se sont effondrés jusqu'à 99,99%. C'est-à-dire qu'en gros, il ne reste plus de ces grands prédateurs. La mer Méditerranée était pleine de grands prédateurs, de grands poissons. Et à partir de là, ils régulaient en effet des écosystèmes. Donc on a non seulement réduit les populations de poissons et d'autres animaux marins, mais on a simultanément détruit les habitats. Et les habitats, c'est quoi ? C'est les écosystèmes. Et donc, il faut se représenter que sous l'eau, c'est comme des villes, sauf que ces villes ou ces forêts, elles sont construites par des animaux, elles ne sont pas construites par des végétaux. Et donc, tous ces animaux, on les a détruits avec le passage incessant de ces bulldozers des mers que sont les chalutiers de fond.
À l'échelle de la France, ça représente quoi comme superficie, d'ailleurs, le passage de ces chalutiers
Alors les chalutiers, les 800 chalutiers français en fait qui opèrent donc avec des licences françaises, c'est chaque année 670 000 km² d'écosystèmes marins qui sont rasés. C'est
chaque année.
Plus grand que la France, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse mis ensemble. Vous comprenez, chaque année. Donc en fait, comment voulez-vous qu'un océan reste sain et productif, et y compris pour les intérêts économiques des pêcheurs eux-mêmes, alors qu'en permanence, on rase toute forme de vie et toute forme de vie tridimensionnelle. J'ai envie de dire, il n'y a pas moyen d'avoir des écosystèmes sains. C'est impossible. On est trop amoureux du chalut. Il faut lâcher cette affaire-là.
Et donc, Marine Calmet, ce que vous nous disiez, c'est que pour vous, en tout cas, la conférence de Nice n'est pas assez ambitieuse, précisément, pour cesser à la fois cet effondrement et ces pratiques totalement désastreuses sur les écosystèmes marins.
Oui, et d'autant plus qu'il y a des pays qui nous montrent vraiment la voie. Dans le mouvement des droits de la nature, l'Équateur, par exemple, est un pays pionnier et a adopté déjà, avant 2020, une loi sur les restrictions justement des pêches intensives. Ils ont interdit purement et simplement toute forme de pêche industrielle dans les 8 premiers milles marins. Et pourquoi ? Parce que les droits de l'océan et les droits de la nature sont inscrits dans leur constitution.
Quel pays par exemple ?
L'Équateur. Et donc, dans ce pays-là, on a eu une très belle jurisprudence là, à la fin de l'année dernière, en novembre 2024, où le juge constitutionnel s'est saisi de la question et a dit « L'État a parfaitement raison d'utiliser par le biais de la loi son pouvoir pouvoir pour réguler les activités économiques, celles qui sont incompatibles avec le vivant.
Donc ça a été fait immédiatement ou pas ?
Bien sûr. Évidemment, dans les 8 premiers milles marins du littoral équatorien, il n'y a pas de possibilité d'utiliser des pratiques de pêche comme le chalut notamment, parce qu'ils disent que c'est incompatible avec la protection des droits des écosystèmes marins et c'est incompatible avec la protection des populations qui vivent de la pêche vivrière.
Et que montrent les biologistes alors quand on arrête justement les pratiques destructrices ? Qu'est-ce qui se passe alors dans un écosystème comme ça ? Ça reprend assez vite ou pas ?
L'océan est résilient, il peut repartir justement. Mais il faut lui laisser la possibilité d'exprimer ce potentiel de vie. Et c'est ce qu'on ne fait pas parce que nos pratiques ne sont pas adaptées aux écosystèmes. Et le juge équatorien, il a une réflexion remarquable. Il dit « Nos activités humaines doivent être adaptées aux écosystèmes. On ne peut pas penser comme ça des activités durables si on pense totalement hors sol nos modèles économiques. C'est le cas actuellement. »
Claire Nouvian, les aires marines, il y a l'objectif 30-30. Hein, c'est 30% des aires marines protégées à l'horizon 2030. On n'y est pas du tout, là, pour l'instant. Peut estimer le pourcentage pour la France ou pas ?
En France métropolitaine, on est à moins de 0,1%. Donc, en fait, la France, si elle avait un gramme d'honnêteté intellectuelle, elle arriverait à ce sommet de l'ONU en disant « Écoutez, les amis, en vérité, on n'a pas d'aires marines protégées. Tout reste à faire. On a mis des tracés sur des cartes qui embêtent tout le monde et qui ne génèrent aucun bénéfice, ni écologique, ni économique. Donc reprenons l'affaire quasiment à zéro, parce qu'on a des confettis de protection. Quand on a des confettis de protection, évidemment ça marche, c'est spectaculaire. En 4 à 5 ans, on va se retrouver avec littéralement 4 à 5 fois plus de poissons. Donc les pêcheurs ont des revenus qui augmentent de 400%. Quand on fait une vraie aire marine protégée, dans laquelle on interdit les méthodes de pêche destructrices, comme par miracle, évidemment, les poissons se portent mieux, les habitats, les écosystèmes se portent mieux, et les poissons s'exportent, parce qu'eux, ils ne connaissent pas le tracé de la carte sous l'eau, n'est-ce pas ? Et donc, les pêcheurs pêchent beaucoup mieux. Eh bien, au lieu de faire ça, au lieu d'être honnête et de reconnaître qu'on n'a pas d'aire marine protégée à part quelques confettis, on continue, on s'entête à faire croire qu'on a des aires marines protégées en France. On n'a pas du tout 30%, on a moins de 0,1. Et en fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est de dire que faire des aires marines protégées, 30% de l'espace marin par façade maritime et par bassin ultramarin, avec un tiers de cette protection pour la nature. Et ce qu'on veut, et ce que demandent les chercheurs internationaux, c'est que les aires marines protégées, il y en ait deux tiers pour les pêcheurs, artisans uniquement, les petits pêcheurs, et un tiers pour la nature. Et c'est à ces seules conditions.
Donc ça veut dire qu'on exclut évidemment les gros bateaux.
On exclut aussi les petits chalutiers et tous ces individus qui ne peuvent pas pêcher. On peut les compenser, on peut les dédommager, on peut les accompagner. Et une mesure très simple, il y a deux façons de faire ça, c'est de leur dire... Évidemment que personne ne doit être victime de politiques environnementales qui ont bien du retard et qu'on aurait dû faire avec un petit peu plus de panache depuis bien longtemps. Ok, il n'est pas question que les pêcheurs soient victimes. Alors, un, on vous dédommage. Il se trouve qu'il y a 700 millions d'euros qui sont issus de la taxe éolienne qui peuvent aller justement aider le secteur de la pêche et cet argent est fléché pour les secteurs. On peut l'utiliser pour les aider soit à arrêter, soit à se convertir. Et d'autre part, en fait, on a une mesure immédiate qu'on peut faire et tous les pêcheurs la veulent. Hein, c'est...
Tous les pêcheurs,
sauf, vous allez voir, 3% des flottes. En fait, retenez une chose, 3% des flottes de pêche sont des bateaux de plus de 25 mètres, des bateaux industriels. Ces 3% capturent la moitié des poissons. Vous voyez, c'est vraiment, on est dans une immense injustice sociale et économique.
Donc
et
que bien, veulent les 97%
des pêcheurs restants, ils veulent, comme nous, qu'on exclue des 12 000 nautiques, ça fait environ 22 km hein, pour les gens qui ne sont pas familiers avec les 1000 nautiques, qu'on exclue des 12 000 nautiques tous les bateaux industriels de plus de 25 mètres, chez nous, on peut le faire. Il suffit de le vouloir, c'est ce que les pêcheurs veulent. Et quand l'État fait la sourde oreille et fait comme si on n'existait pas et comme si ces demandes n'existaient pas et qu'en plus elle trahit en permanence les pêcheurs, parce que je ne veux pas vous souvenez, on avait gagné le vote contre la pêche démersale, etc. Et en fait, l'État avait trahi les pêcheurs. Donc, quand même les pêcheurs sont avec nous et demandent ce genre de mesures de protection sociale et environnementale, l'État ne les écoute pas. Pourquoi ? Parce qu'il écoute les 3% d'industriels de plus de 25 mètres.
Et ce ne sera pas à l'agenda de la conférence.
Ah non, alors attendez, c'est énorme. Il fallait le faire. Mais notre sommet mondial sur l'océan ne parle pas des deux éléphants dans la pièce que sont les deux principales causes de destruction de l'océan, les émissions de CO2 d'un côté et la pêche industrielle de l'autre. Donc les chercheurs de l'IPBES, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, ont dit que la principale cause de destruction de l'océan, historiquement, c'est la pêche. De quoi ne va-t-on pas parler au sommet de l'océan ? De la pêche, si c'est pas formidable !
Marine Calmet, Claire Nouvian, nos invités cet après-midi dans la Terre au Carré.
Mathieu Vidard, La Terre au carré.
Avec nos invités Claire Nouvian de Bloom, Marine Calmet de Wild Legal, pour parler océan dans le cadre de cette journée spéciale sur France Inter. On va répondre à vos messages dans un instant. Pour poursuivre la discussion, je voudrais vous faire entendre Agnès Pannier-Runacher, notre ministre de la Transition écologique de la Biodiversité de la Forêt et de la Mer et de la Pêche. C'était il y a deux jours sur son compte Instagram autour de l'extractivisme, le deep sea mining.
Depuis 2022, nous avons dit non à l'exploitation des grands fonds marins. Et je le redis aujourd'hui, sans détour, avec le président de la République et tant que je serai ministre, cette ligne ne bougera pas. Notre ligne, c'est la science. Nous avons interdit l'exploitation, nous avons investi dans la connaissance et dans la recherche scientifique parce que je crois qu'on peut faire mieux, qu'on doit faire mieux pour l'océan, pour le vivant, pour notre avenir. Car protéger l'océan, c'est nous protéger. Et je serai là pour le dire et pour le défendre.
Agnès Pannier-Runacher, ministre donc de la Pêche. Claire Nouvian, la science et la boussole, c'est quand même bien ça comme discours.
Alors, je ne sais pas qui y croit. En fait, j'aimerais bien faire un sondage parmi les auditeurs de la Terre au Carré qui croient encore à ce genre de choses, mon Dieu. Écoutez, au secours. Parce que là, on est vraiment dans le typique du double standard, si j'ai 3 minutes pour développer. Parce que d'un côté, on a une ministre, Agnès Pannier-Runacher, qui nous dit, écoutez, c'est formidable, regardez la science, le deep sea mining, l'extraction de minerais en haute mer, c'est vraiment une très mauvaise idée, donc on suit la science. Et à côté de ça, on a depuis des années des chercheurs qui ont dit qu'il fallait protéger 30% de l'océan, dont un tiers en protection stricte, sans aucune forme d'extraction. Et on a un consensus, vous comprenez, on a un consensus scientifique. Que fait la France ? Elle lui passe dessus, elle l'ignore totalement. Et à côté de ça, on prend en effet, on va prendre le sort des scientifiques américains et on dit, mon Dieu, c'est trop triste ce qui leur arrive, ouvrons les bras à la science américaine, nous, nation d'accueil des chercheurs, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec notre science à nous ? On lui coupe les vivres. Qu'est-ce qu'on fait avec notre science, d'ailleurs, océanographique et océanologique ? On est en train de détruire la science, en fait, y compris océanographique en France. On est en train de détruire et de déshabiller la science, notamment polaire, par exemple, au moment où les glaces s'effondrent au niveau mondial. On est en train de déshabiller la recherche polaire, on est en train de couper les budgets pour avoir les suivis au long cours des populations de manchots et de phoques en Antarctique, et on est en train de... Et là, attendez, non, c'est pas fini, vous allez voir, c'est énorme. Et donc, on dit aux chercheurs qui ne l'ont pas demandé, vous allez avoir un brise-glace, si c'est pas merveilleux. Et donc, en fait, ils veulent pas de brise-glace. La plupart d'entre eux ne veulent pas d'un brise-glace. Ils veulent de l'argent pour payer les post-docs, les gens, ils veulent en fait arrêter de précariser la recherche, ils veulent de l'argent pour continuer leurs travaux de recherche. Vous comprenez ?
Donc ça, c'est pour la science. Marine Calmet, quand même, sur la position de la France sur l'extractivisme, le deep sea mining, c'est quand même intéressant ce qui est dit dans la bouche de la ministre là, que la France s'oppose à ces pratiques.
Oui, c'est intéressant.
On peut quand même le souligner, non ?
Oui, c'est intéressant et c'est d'autant plus intéressant qu'il y a quelques semaines, notre ministre des Outre-mer nous annonçait qu'il allait réouvrir la question de la loi Hulot pour faire des forages pétroliers au large de la Guyane. Donc, on est vraiment dans le grand n'importe quoi. Et encore une fois, en total désaccord avec les connaissances scientifiques, pas que océaniques, hein, climatiques, et toutes les interrelations entre la mer et la terre. Enfin, c'est du délire absolu.
Mais pourtant, encore une fois, pour l'instant, la pratique est interdite. Hein.
Oui, d'accord, mais en fait, la loi en ce moment ne fait que régresser à terre et en mer. Et on le voit, les intérêts industriels et les grands lobbies, eh bien, ils ont systématiquement la peau de nos avancées législatives. Donc franchement, on est dans une régression à tout va des normes. Et il faut que le message s'inverse par la pression de la France, mais aussi par la pression de tous les États pionniers dans le domaine.
Claire, nous venons pour conclure, parce qu'on a beaucoup de questions des auditeurs et auditrices, s'il vous plaît.
Mais prenez la mesure du double standard qui existe en fait au niveau scientifique. Regardez, d'un côté, on a le deep sea mining, en effet, hein, donc l'extraction de minerais en haute mer. La dernière fois qu'on a eu quelque chose de vraiment bien au niveau de la France par rapport à sa position écologiste, on va dire, sur les questions environnementales, c'était à la dernière conférence des Nations Unies sur l'océan. En effet, on a fait ce poste. Donc merci à toutes les citoyennes, à tous les citoyens. Suivez-nous sur les réseaux, c'est le moment de faire grossir notre communauté parce que c'est nous qui avons changé la position d'Emmanuel Macron. Mais c'est facile d'être contre le deep sea mining. Puisqu'il n'y a pas d'intérêt constitué, il n'y a pas aujourd'hui d'extraction. Alors que là, on a des intérêts constitués. Les pêches au chalut, en fait, qui sont un minuscule pourcentage de notre économie et qu'on pourrait accompagner. Est-ce qu'on fait le job pour s'opposer à ces quelques intérêts constitués ? Non !
Allez,
aucun courage politique.
On passe aux questions et merci pour les réponses courtes, s'il vous plaît, parce que les messages sont nombreux. Alors, énormément de messages, Emmanuel, Cécile, Eric, Anne vous demandent comment est-ce qu'en tant que citoyen, on peut apporter notre contribution à l'action des associations qui défendent les océans et qu'est-ce qu'on peut faire encore à la veille de cette conférence, Marine Calmet ?
Mais le texte n'est absolument pas figé, donc comme je disais, nous on a une pétition que vous pouvez absolument signer, relayer. Comme le disait Claire, en fait, il faut leur mettre la pression et ce qui marche aujourd'hui, c'est les médias et les réseaux sociaux. Et donc, il faut réussir à se faire entendre et les afficher en fait publiquement pour leurs contradictions.
Gilles demande, est-ce qu'on pourra un jour payer un impôt international pour dépolluer, décarboner les océans de la même façon que l'on paye des impôts municipaux pour le ramassage des ordures ?
Mais en fait, je vais vous dire, je vois pas pourquoi on paierait plus d'impôts alors qu'on ne veut pas taxer les ultra-riches. Alors, s'ils veulent faire une chose intéressante, c'est de taxer les amis. Alors, évidemment, les amis ultra-riches qui ont payé leur campagne électorale, donc je comprends que ça pose un petit conflit d'intérêts. Mais en fait, si on veut, l'argent existe, ça s'appelle la taxe Zuckman. Et on n'a qu'à aller taxer les patrimoines des ultra-riches qui n'ont que faire de leur argent et que ça bousille visiblement mentalement puisqu'ils deviennent en grande partie d'extrême droite après. Donc, non, allons taxer les ultra-riches.
Pierre demande justement, quid des financements publics de la pêche en haute mer.
Alors, la pêche en haute mer, c'est une chose, c'est-à-dire c'est en dehors de nos eaux souveraines, il y a très peu de pêche en haute mer, donc la question c'est plutôt de la pêche lointaine, donc ça c'est un autre écran de fumée que vous allez entendre et réentendre dans le cadre de ce sommet. On va vous parler de la lutte contre la pêche illégale, parce qu'on adore taper sur les Chinois pour parler de la pêche illégale. Mais parlons en fait de nos activités, en fait dans des zones éloignées par exemple. Les flottes de pêche françaises, 0,3% de nos flottes, ce sont des bateaux qui vont pêcher du thon tropical en Afrique de l'Est et de l'Ouest. Ils capturent 20% de nos poissons. Vous vous rendez compte ? 0,3% des flottes qui capturent 20% de nos poissons. Imaginez-vous que ces flottes de pêche thonnières n'ont aucun contrôle. Non, pas un contrôle par an. Donc en fait, on a bon dos de parler de pêche illégale, etc. On n'a pas besoin, ces gens-là
se financent. Donc ça, c'est cette pêche très loin de nous, et sur les pêches plus proches qui sont financées aussi par...
Elles sont financées par vos impôts, chers amis, puisque le chalutage, par exemple, n'existerait pas s'il n'avait pas la détaxe sur le gasoil. Donc en fait, c'est nous, par le biais de nos impôts, qui finançons la destruction de l'océan, alors qu'en fait, les petites pêches artisanales, vertueuses, qui produisent de l'emploi ancré dans le territoire, sont littéralement jusqu'à 5 fois moins subventionnées, alors qu'elles génèrent 3 à 4 fois plus d'excédents bruts d'exploitation, c'est-à-dire de bénéfices, et 2 à 3 fois plus d'emplois. Vous voyez, en fait, je vais vous dire, on met une classe de CM2, il vous règle le problème. Enlevez les politiques de l'équation, on vous fait un programme ambitieux avec des intérêts économiques pour tout le monde. C'est ça qu'il faut bien comprendre.
Ça s'appelle la conférence citoyenne.
Et oui, c'est ça qu'on devrait
faire,
Marine.
Sur le climat, par exemple, ou sur la mer.
Puisqu'on va être parqué entre ONG, on n'a qu'à faire notre contre-sommet. En vrai, on devrait faire ça.
Ce serait une très bonne
idée. À Nice. Christian demande, est-ce qu'on peut inverser la question du jour sur France Inter ? Au lieu de dire « l'océan peut-il nous sauver ?», dire plutôt « peut-on encore sauver l'océan ?» Marine Calmet.
Je pense qu'en fait, l'océan, si on lui laisse la capacité justement d'exprimer son potentiel de vie, il peut se sauver tout seul. C'est le vrai problème, c'est comment on sauve en fait nos modèles démocratiques, parce que ce sont eux en fait qui sont en train de sombrer. C'est le pouvoir politique qui est en place qui fait en sorte qu'on n'a plus la prise tangible aujourd'hui sur notre avenir qui est totalement accaparé par un petit nombre de personnes. Et en fait, ce qui se joue ici, c'est pas une crise écologique, c'est un scandale politique. Donc c'est ça qu'il faut sauver en vérité. L'océan, lui, il va s'en remettre si on arrête de lui mettre la pression. Et nous, du même coup, on va aussi se porter bien mieux.
Anne nous dit, elle a tellement raison, Nouvian, elle qui a le courage de tenir tête au lobby de la pêche. Je vous admire, je soutiens votre combat. Bon courage, dit-elle. Loïc, un grand merci aux deux intervenantes pour leur clairvoyance, leur indignation et leur révolte face au grand cirque médiatico-lobbyiste. Ça file la frite, même si je pense connaître l'issue de leur combat. Sylvie nous dit, elle a raison, Claire Nouvian, est-ce que l'on entend dans les émissions d'information à propos de l'état de la planète, de ses océans et de sa biodiversité ? Ce qu'on entend est affligeant, on se casse plus la tête pour expliquer le dernier match du PSG que pour nous dire vraiment quels sont les vrais enjeux de la vie sur Terre.
Ah ça, si, appel officiel, formel à tous les footballeurs de France et de Navarre et au-delà, s'il y en a un qui un jour mouillait son maillot pour sauver l'humanité et sauver l'océan, je vais vous dire, ça ne fait pas un pli. La France entière entend parler enfin de nos combats. Il se trouve que ça va nous, en fait, empêcher le désastre.
L'appel est lancé.
En fait, parce qu'on oublie, mais il s'agit de nous, là, maintenant. En fait, on a, comme le disait Daniel Pauly, on a déjà détruit tout autour de nous. Donc là, il s'agit de protéger l'humanité.
Enfin, Nathalie, merci à Claire Nouvian et Marine Calmet pour leur coup de gueule qui est plus qu'indispensable. Un petit mot sur le coût de cette conférence de Nice pour terminer, Claire Nouvian.
Ouais, ça c'est quand même le sujet préféré parce que Mediapart a fait une enquête et a donc montré que, par exemple, à Lisbonne, à l'endroit où il y eut la dernière conférence des Nations Unies sur l'océan, il y a 3 ans, en 2022, où en effet Emmanuel Macron, sous la pression citoyenne, a annoncé qu'il était contre l'exploitation des minerais en haute mer, ça a coûté la dernière conférence des Nations Unies, 11 millions d'euros. Et vous savez sur quoi on part ? Ouais, à Lisbonne. Et là, nous, on est parti sur 60 millions d'euros. C'est-à-dire, on a explosé le budget. Et tout ça pour coquille vide. L'accord de Nice de la grande hypocrisie environnementale. Donc, en fait, tout est encore possible. Emmanuel Macron peut décider tout seul dans son coin de sauver l'honneur de la France, et pas seulement par la Polynésie, parce que le gouvernement polynésien fait un travail formidable pour vraiment protéger ses eaux. Ce serait quand même un peu énorme de récupérer simplement le travail fait par les élus locaux et le gouvernement polynésien depuis 10 ans, et le mettre au crédit de la France.
Bon, en tout cas, coquille vide, on peut quand même avoir le bénéfice du doute. On attendra la fin de la conférence pour le dire, et d'ailleurs, vous pourrez en témoigner ici sur cette antenne, puisque vous serez notre envoyé spécial tous les jours. On aura 4 minutes de Claire Nouvion. Il y en a qui vont détester, mais ça va être comme ça, pendant tout le sommet de Nice à partir de lundi prochain. Je signale Justice pour l'étoile de mer avec François Sarano. Ça, c'est justement ce texte vers la reconnaissance des droits de l'océan que vous signez Marine Calmet. C'est aux éditions Actes Sud. Merci à Joël Levert qui a préparé ce dossier. Merci à toutes les deux.
Merci.